Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés, puis je te remercie de ce que tu veux faire encore mieux de nous ce matin avec ta parole, parce que ta parole est vraie, puis ta parole c'est la vérité, ta parole elle demeure éternellement, puis tout ce qui est écrit dans cette parole va s'accomplir. Nous croyons en tes promesses, puis nous croyons en ce que tu veux faire dans nos vies, nous remettons cette réunion entre tes mains, puis tu continues ton œuvre pour nous changer, nous transformer, augmenter notre foi, puis nous donner de persévérer avec foi. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen.
Alléluia. Ce matin, le message que Dieu m'a mis sur mon cœur de vous partager, ça m'a rempli mon cœur de joie de partager ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est, pour moi, qui est très important, et pour plusieurs d'entre vous, c'est très important. Puis il est important là-dedans qu'on comprenne ce que Dieu en pense de ce sujet-là. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Puis comment je dois attendre pour que ça se fasse? Puis on va voir les résultats qu'on attend tous. Peut-être pas tous, parce qu'il y en a que c'est déjà fait, mais il y en a plusieurs d'entre nous qui attendent ces choses. Puis quand on va rentrer dans les versets qui sont écrits dans la parole, je vous encourage à les noter. Puis à vous appuyer en prière ces versets-là, parce que c'est des promesses de Dieu qui a promis de le faire. Puis c'est toute la gloire va y revenir dans tout cela quand on va voir l'exaucement. On est en cours dans la série de saisir les promesses de Dieu. Il faut saisir les promesses de Dieu. Elles sont déjà toutes là, mais on peut passer à côté des promesses de Dieu parce qu'on croit pas. On y croit pas, fait quand on y croit pas, ça s'accomplit pas. Même dans le temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, puis il venait de faire des centaines de miracles qui arrivent dans sa municipalité pour faire d'autres miracles, qu'est-ce qui s'est produit? Il dit, il n'a pas pu faire là gros de miracles. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Il y avait plein de miracles qui s'est fait ailleurs, puis il y a du monde qui ne croyait pas que Jésus pouvait en faire. Pourtant, il connaissait Jésus, il est né là. Là-dedans, là, Dieu veut nous montrer dans ce passage-là que Dieu, il exauce des prières à la tonne à travers le monde. Partout, là, il y a du monde qui peuvent confesser que Jésus a exaucé des prières. Puis il y en a d'autres qui n'osent pas demander encore. Ils n'ont pas compris, il faut qu'ils mettent leur foi. Puis qu'ils disent, oui, tu l'as fait pour d'autres, tu l'as fait ailleurs, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. Puis en plus, s'il l'a promis, Dieu, c'est du garanti. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Le sujet de saisir les promesses de Dieu pour voir notre famille sauvée. Que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit nos mononcles, nos matantes, nos cousins, nos cousines. Dans la Bible, il y a des promesses que Dieu veut sauver notre famille. Mais il faut élargir notre idée que c'est pas juste mes enfants. Ça peut être nos conjoints, ça peut être nos petits-enfants, ça peut être nos parents, ça peut être nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, puis ça s'étend, là, il n'y a pas de limite. Puis même quand Dieu sauve un étranger, un de nos amis, il veut sauver aussi sa famille. Il veut faire l'œuvre là-dedans. Dieu veut le faire. Comment peut-on avoir l'assurance que nos enfants seront sauvés?
Dieu nous l'a promis.
Oui, ça, on va les voir tantôt. Comment vaincre nos inquiétudes et devenir convaincus que Dieu va les sauver? Parce qu'il faut se l'avouer. On n'a pas, depuis qu'on est chrétien, depuis qu'on s'est converti, nous n'avons pas tous marché. Pas tous. Nous n'avons pas tout le temps marché dans la foi, avec une pleine assurance, sans douter. Nous doutons souvent, nous nous faisons des soucis. Comment est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, il viendra jamais au Seigneur. Là, on confesse plein d'affaires. Qui suit comme à cause que ce qu'on ressent intérieurement, on laisse sortir de notre bouche plein d'affaires. Pourtant, Dieu a promis des choses. Puis Dieu veut qu'on s'accroche à ses promesses plutôt que s'accrocher à nos inquiétudes, puis nos doutes, puis nous tout ce qu'il veut essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Il faut apprendre à mettre notre confiance en Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre du salut, c'est pas nous. On participe, on est des co-ouvriers avec Dieu. Mais heureusement que c'est pas juste nous autres les ouvriers, parce qu'il n'y a rien qui se passe. si c'est juste nous autres. Faut que Dieu agisse. Puis Dieu a promis d'agir, puis c'est lui qui sauve ses brebis. Il dit, je les appelle par leur nom et elles me suivent. C'est Jésus qui fait l'ouvrage. Nous autres, on aide Jésus, c'est tout. Mais c'est tout l'ouvrage est fait par Jésus. Fait qu'il faut apprendre à faire confiance au Seigneur que c'est lui qui est le boss pour sauver qui veut, quand qui veut, comme qui veut, puis autant qu'il veut. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mais le temps favorable, c'est quand? Des fois, nous autres, on a fixé nos propres temps favorables. Nous avons décidé, Seigneur, ça sera le temps là que je le reçoive. Mais ben, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on va être exaucé. À son temps favorable. Puis des fois, ça s'étire un petit peu. Un petit peu. Parce que regardez, 20 ans, 30 ans, comparé à l'éternité, c'est minime. Tu sais, des fois, on s'en fait avec 20 ans, 30 ans. Lui, Seigneur, il voit ça comme un jour, c'est comme 1000 ans comme un jour. Il voit pas les choses de la même œil que nous autres. Dans le psaume 37, 5, ça dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Voyez-vous, c'est un critère pour que Dieu agisse. Faut que tu mettes ta confiance en Dieu. La promesse était déjà là dans la parole de Dieu, mais il veut t'apprendre à y faire confiance. Puis cette confiance-là, c'est pas automatique. C'est quelque chose que faut que tu médites, tu approfondisses dans ta vie. Où reposes-tu ta confiance? La confiance, c'est le contraire des doutes, de l'inquiétude, puis de toute l'incrédulité. La confiance, c'est une ferme assurance, t'es sûr que ça va se faire. Mais comment qu'on peut y arriver à cette confiance-là? Mais il faut lire les versets de la parole de Dieu. Il faut méditer ses promesses. Il faut saisir ses promesses. Puis là, dire, Seigneur, t'as promis telle affaire. Là, tu t'accroches à ça. C'est pas moi. J'ai décidé, intellectuellement, t'as décidé de tout confier ça dans les mains du Seigneur. Seigneur, c'est à toi mes enfants, c'est à toi ma famille, c'est à toi mon conjoint, c'est à toi mes frères et sœurs, puis mes... C'est tatoué toute la vie. Tout appartient à Dieu. Nous autres, on est juste comme à gérer notre petite affaire, mais c'est Dieu qui mène la grosse affaire. Dans le psaume 130, le verset 5, ça dit, « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. » Ça, c'est un beau verset qui nous dit, « Tu mets ton espérance, ta confiance en l'Éternel. Mon âme, là, mon intérieur, tout ce qui est notre intérieur, a mis sa confiance puis espère en Dieu. Puis il espère en quoi? Il dit, j'attends sa promesse. Ça veut dire, il s'appuie sur des promesses. Il y a des versets dans la Bible que Dieu a dit, voici, je ferai. Mais quand tu vois une affaire de même, c'est une promesse. Tu peux avoir confiance. Dieu, ce qu'il promet, il veut le faire, puis il va le faire, puis sa parole est pas fausse. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir comme qu'il l'a annoncé. Ça veut dire que quand il annonce quelque chose dans la Bible, déchirons les versets, déchirons notre Bible, les versets, c'est notre frigidaire, ou plus dans notre cœur, ça sera encore mieux. On peut faire des copies, c'est une façon de parler. Ouais, ça va coûter cher la Bible. La Bible est pleine de promesses. Puis mettez-les pas sur le frigidaire. Vous pouvez le mettre sur le frigidaire parce que Dieu nous demande d'afficher sa parole. Mais mettez-la plutôt en premier dans votre cœur, avoir une ferme assurance, une ferme confiance, d'espérer en se basant sur des versets qui sont ses promesses. Dieu veut augmenter notre foi en ses promesses. C'est ça qui est le thème. Il veut qu'on mette notre foi en ses promesses, qu'on apprenne à bâtir notre vie sur ses promesses. C'est de bâtir sur le roc, comme Jésus disait, bâtir sur sa parole. Il dit, c'est un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie va venir, les torrents vont venir, puis la maison va rester debout. Mais si on bâtit pas sa parole, on bâtit sur du sable. Le vent va venir, puis les torrents vont venir, puis la ruine de cette maison va être grande. Notre vie doit être basée sur les saintes Écritures. Il dit, ma parole demeure éternellement. Il n'y a rien qui va s'aboler, puis il n'y a pas de menterie là-dedans. Dans Hébreux 6, 11, ça nous dit, Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est par la foi, et pas juste par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. C'est à long terme. C'est un combat à long terme de s'accrocher à Dieu par la foi sur ses versets, puis on attend que ça s'accomplisse. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Amen. Là, il dit, gardez une pleine espérance. Montrez du zèle à dire, oui, je le crois que Dieu va exaucer ma prière. Comme il y a un passage, un passage dans un film, dans le film de Moïse, les 10 commandements, le vieux film, puis que tu vois Moïse sur le bord de l'eau, puis là, il y a le peuple égyptien qui court après le peuple d'Israël, puis là, Moïse est sur le bord de l'eau, puis là, il dit à tout le monde, regardez la puissance de Dieu. Là, il a frappé l'eau, puis l'eau s'est retirée, puis ça a fait un mur d'eau chaque bord. Mais ça, là, quand j'ai vu ça, quand je me suis rendu compte de ça, le poil m'a redressé ses bras, de voir quelqu'un qui prononce, avant que ça l'arrive, il prononce par la foi ce qu'il savait que Dieu était pour faire quelque chose. Dieu était-tu pour y bâtir un pont? Il ne sait pas, Dieu n'y aura pas dit. Mais là, on est devant l'eau, Dieu nous a dit, il faut qu'on avance. Puis on est devant l'eau, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis il a confessé d'avance, regardez, mais ça, c'est pas écrit dans la Bible nécessairement dans les mêmes mots, mais c'est les gestes. J'ai trouvé ça extraordinaire, qu'ils prennent position devant Dieu, puis devant les hommes, puis ils confessent qu'ils croyaient qu'il était pour se passer quelque chose, puis que l'eau s'est retirée. Puis quand il a frappé l'eau, là, hein, pour que ça se passe, c'est un pas de foi, là, là, il y a tout le monde là, les yeux fixés sur lui. Là. C'est le centre d'une histoire extraordinaire. Qui? Ben oui. Fait que les gens, ils s'accrochent à la promesse, aux promesses, puis à la vision de Dieu, de ce qu'ils comprennent de la volonté de Dieu pour leur vie, puis ils se basent sur Dieu le dit, je le fais. Peu importe ce que le monde pensera, puis là, il a frappé l'eau, puis ça s'est retiré. Faut à rentrer dans cette dimension-là, qu'on soit chacun de nous capable de confesser par la foi des promesses de Dieu, puis regarder comment Dieu va faire. Tu as un problème financier, regardez comment Dieu va me sortir du trouble. Aucun doute, une pleine assurance, une pleine confiance. J'ai perdu mon emploi, regardez où est-ce que Dieu a préparé quelque chose pour moi. Vous avez des problèmes, des difficultés, des n'importe quoi. Regardez comment est-ce que Dieu va me sortir de tout ça. Là, vous apprenez à faire confiance à Dieu et à vous reposer. Parce que quand on n'a pas encore fait ça, on pense que c'est nous qu'il faut qu'il règle la patente. Puis là, on s'inquiète, puis on confesse des affaires pas correctes. Puis là, ça on voit pas la main de Dieu, on n'agit pas avec foi. Comprenez-vous? Abraham avait reçu de grandes promesses venant de Dieu. Une, entre autres, c'était d'avoir une descendance, puis que sa femme était stérile, elle avait 90 ans quand elle a eu son enfant. Mais il a eu sa promesse avant. Lui, il en a eu 99 quand ça s'est exaucé. Mais il a attendu des années avant que ça s'accomplisse. Puis il y a eu des moments où il a douté, puis il a essayé d'accomplir la volonté de Dieu par ses forces. Mais c'était pas le plan de Dieu. Dieu a dit, je te donnerai une descendance plus nombreuse que le sable de la mer ou bien que les étoiles du ciel. Puis Dieu y avait dit, quand il avait été le voir, avec les anges ont été le voir, puis ils ont parlé, dans Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation. Une nation grande et puissante. Ça veut dire, de Abraham, il était pour sortir une grande et puissante nation. Mais il n'y avait rien de fait à ce moment-là. Ça a pris des années avant que ça s'accomplisse. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Parce que dans sa descendance, qu'est-ce qui est sorti? Le Christ, Jésus, est le descendant direct d'Abraham, avec une couple de générations entre les deux. Mais c'est un descendant, puis de lui était la bénédiction sur toute la terre. Il n'avait rien accompli encore. Mais l'ange, quand il a parlé à Abraham, il a dit, on va-tu le cacher à Abraham ce qu'on va faire? Là, il parlait comme dans le nom de l'Éternel. Puis il dit, certainement qu'Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation. C'est sûr que ça va se faire. Ça voulait dire, il n'y a pas de place pour le doute. Ça va s'accomplir. Puis nous, 3500 ans plus tard, peut-on dire, amen, que ça s'est accompli. Dieu, il n'est pas menteur. Mais Abraham, dans les 15-20 ans d'attente, quand de voir son premier fils qui sort de ses entrailles, de sa femme, y a-tu des doutes, des moments où il a confessé peut-être des affaires? Mais Dieu veut nous montrer quelque chose là-dedans. Dans le même verset que je vous ai dit, « En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. » Dieu avait choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Oups, là, on rentre de Dieu promet de bénir tout le monde à travers Abraham, mais il demande à Abraham de transmettre cette foi-là à ses enfants. Une foi qui est dans une attente de croire en ce que Dieu dit, puis de voir les accomplissements. Parce que tu y crois, tu confesses, tu marches dans cette voie-là. Il fallait que transmettre ça à ses enfants. Donc, la vision de Dieu, sa bénédiction qu'il veut répandre à Abraham, veut la répandre à tous ses enfants. Il veut la répandre à toute sa famille. Dieu avait une vision pour la famille complète d'Abraham. De bénir Abraham et sa postérité. Les promesses de Dieu ne sont jamais juste pour nous-mêmes tout seuls. Dieu veut nous bénir pour que ça se transmette à nos enfants aussi. Puis là, il a dit dans la suite, il veut qu'il garde dans la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Fait qu'Abraham avait à transmettre ce qu'il recevait de Dieu. C'était sa job, puis Dieu veillait à ce que s'accomplisse tout ce qui avait été annoncé à Abraham. Fait qu'on voit que dans l'accomplissement des promesses, il y a deux parts. Il y a la part de celui qui reçoit la promesse, puis la part de Dieu qui a promis, puis que Dieu va l'accomplir. Il y a deux, je dirais pas agents actifs, mais il y a deux, comme si on regarde la part de Dieu, c'est sûr que Dieu est capable de le faire, puis Dieu va le faire parce que Dieu ment pas. Mais l'autre, nous, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous recevons avec foi? Est-ce que nous gardons la persévérance dans ses promesses? Est-ce que nous allons mettre notre vie en conformité avec ce qu'il nous demande pour arriver à ce que, mettons un exemple, vous êtes appelé à travailler dans un ministère quelque part, Dieu vous appelle, il vous met une parole, il vous le met dans le cœur, puis il vous le dit prophétiquement, puis vous le confirmez dans le cœur, qu'il vous appelle à être missionnaire à telle place. Mais à un moment donné, il faut qu'on se lève, qu'on commence à faire des pas pour s'enligner dans cette direction-là. Si on dit, moi, Dieu m'a promis des belles affaires, mais moi, je reste assis sur une chaise, mais il n'y a pas grand-chose qui va s'accomplir. Comprenez-vous que des promesses, il y a comme, il faut répondre. Il y a des conditions, mais Dieu est capable, puis Dieu veut le faire, il l'a promis. Mais il faut rentrer dans notre position que Dieu nous demande. Puis ça s'est accompli, qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham. Il l'a fait. Il y avait un temps pour que ça se fasse. Puis c'était pas le temps que Abraham a choisi, c'est le temps que Dieu a choisi. Ça, on voit ça dans Actes 7, 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Fait que Dieu sait déjà quand est-ce qu'il va la faire, sa promesse. Nous, on ne sait pas. Mais on garde la foi dans sa promesse. On garde une assurance, une confiance. On se repose en l'Éternel. C'est Dieu notre espérance. On remet ça entre ses mains. On chasse les soucis, les doutes, les inquiétudes, les craintes, les peurs, puis on les mauvaises paroles négatives aussi. Puis on commence à confesser. Ça fait 20 ans, mais j'attends encore. Un qui est assez étonnant, un prophète dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie. Qu'apparemment, là je ne me rappelle plus par cœur, mais apparemment que ça fait, il a été 40 ans à sortir de la ville, à annoncer que Dieu était pour détruire la ville. où ce qu'il habitait. Puis que Nébuchadnezzar est arrivé, puis là, ça s'est accompli. Il y a des choses qui s'accomplissent à long terme, à longue haleine, puis il faut que tu gardes le cap. Si tu commences à douter, puis tu commences à dire, oh, ça arrivera jamais, puis tu commences à dire aux autres que ça arrivera pas, là, t'es, non seulement tu convaincras pas celle que tu es en train de parler, mais tu es en train de te dérailler du chemin. Dans l'Ancien Testament, il était courant de voir que les parents, qui marchent par la foi, là, ils posaient les mains sur la tête de leur enfant pour prononcer des bénédictions de la part de Dieu. Ça, c'est par la foi, ça. Dieu, il a pas dit, fais ça. Mais ils croyaient en leur Dieu, puis ils croyaient que Dieu avait promis de les bénir, puis bénir leur descendance, fait que quand ça arrivait le temps, ils mettaient leurs mains sur leurs enfants, puis là, ils priaient, puis ils prononçaient des bénédictions pour que ça s'accomplisse, pour que la bénédiction de Dieu demeure sur eux. Nous, à chaque fois qu'on se bénit, c'est la même affaire. Il faut croire que le Seigneur te bénisse. Il faut croire qu'on est en train de prononcer des bénédictions sur les gens. Mais il ne faut pas oublier nos enfants. Les bénédictions qu'on a reçues en Christ, Dieu veut les transmettre à nos enfants. Il faut rentrer dans cela. Abraham avait comme tâche de transmettre, d'inculquer ça à ses enfants, les messages de foi qu'il avait reçus, puis de pouvoir transmettre ça à ses enfants. Qu'est-ce que ça a donné comme fruit? Son premier-né, Abraham, Isaac? Non, celui qui recevait la... Jacob... Ah non, excusez, c'est Isaac qui a donné sa bénédiction à Jacob. Là, on parle de... La deuxième génération, même encore, recevait des résultats de la bénédiction. Mais Isaac l'a fait. Il a béni Jacob. On le voit, ce passage-là, dans Genèse 27-27. Jacob s'approcha, il le baisa, Isaac sentit l'odeur des vêtements, puis il bénit, puis il dit, voici l'odeur de mon fils, qui est comme l'odeur d'un champ. Mais là, c'est l'autre qui est en train de voler la bénédiction. Mais quand même, le principe de transmettre la bénédiction, c'est ça que je veux qu'on capte aujourd'hui. Abraham avait reçu une bénédiction, il devait l'inculquer à ses enfants, puis Isaac l'a fait à Jacob. Ça se transmettait, ces bénédictions-là. Ça dit que, le verset 28, que Dieu te donne la rosée du ciel, les graisses, puis une vie abondante, tout ça, puis que les peuples te soient soumis, puis se prosternent, puis béni soit celui qui te bénit, puis maudit celui qui te maudit. Mais que Dieu te donne, fait qu'il est en train d'inculquer que Dieu est en contrôle de ta vie, puis Dieu veut te bénir dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans cette moule, pas les moules, mais l'exemple qu'on reçoit là, pour qu'on saisisse qu'on a à bénir nos enfants des bénédictions qu'on a reçues. Dieu nous a bénis afin que ça se transmette à nous et à notre famille. Ça, on va le voir dans d'autres versets un petit peu plus loin. Mais c'est le principe, le cœur à vouloir transmettre, inculquer, ramener nos enfants toujours dans la pensée de Dieu. Si on n'agit plus dans ce sens-là, on est en train de dire, Satan, arrange-toi avec, je les donne. Si tu veux plus combattre avec Dieu, parce que Dieu veut t'utiliser pour que tu les ramènes toujours, comme lui montrer c'est quoi le cap, c'est quoi le fort, c'est Jésus, puis les ramener toujours à la vérité. C'est ça qui est notre devoir. C'est ceux qui vont, des fois, qui vont s'en éloigner, mais ils vont revenir. C'est ce que ça nous dit dans d'autres passages. Mais il faut garder la foi que Dieu est tout en contrôle, Dieu l'a promis, puis Dieu va le faire, puis on transmet ce qu'on comprend de la parole de Dieu, puis Dieu va s'arranger avec le reste. Savez-vous qu'il y a un état de cœur, puis qu'il y a des paroles que Jésus ne veut pas qu'on confesse lorsque nous sommes en attente de quelque chose qui vient de Dieu? Quand on est en attente d'une promesse, là, puis qu'on a décidé de marcher par la foi, il y a un état de cœur, puis il y a des paroles que Jésus ne veut pas qu'on prononce. Dans Matthieu 6, 31, là, il y a un exemple, là, puis cet exemple-là est simple, c'est une chose de base, mais c'est pour nous montrer l'exemple, dans toutes les promesses de Dieu, ça doit être la même attitude, puis les mêmes paroles. Jésus dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. » Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Quand on est rendu là, c'est parce qu'on est... Pourtant, Dieu a promis qu'il nous nourrira, qu'il pourvoira à nos besoins, mais il veut pas que dans notre cœur, on ait de l'inquiétude face à sa promesse, puis il veut pas qu'on confesse, ça marchera pas, je l'aurai pas, ça s'accomplira pas. Dieu m'a oublié, Dieu m'aime plus, Dieu, il m'a délaissé. Il y a des affaires qu'on n'a pas le droit de dire en tant que chrétien si on veut voir les promesses de Dieu s'accomplir. Il dit ça, toutes ces choses-là, c'est les païens qui les recherchent. Parce qu'eux autres s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas l'assurance qu'il y a un Dieu qui va pourvoir à leurs besoins. C'est pour ça qu'ils vont dire ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est quelqu'un qui est sans Dieu qui parle comme ça. Parce que quelqu'un qui a un Dieu, puis il sait que son Dieu répond aux prières, parle pas comme ça. Puis Dieu veut nous enseigner à ce qu'on soit pas des gens qui confessent que ça marchera pas. C'est pas de Dieu. Jésus, dans ce passage-là, il leur confirme encore le désir de Dieu de vouloir prendre soin de nous. L'autre verset, il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données. » C'est promis que Dieu pourvoira. Fait que c'est promis que Dieu va pourvoir. On n'a pas à s'inquiéter et à pas confesser que ça ne marchera pas, puis qu'on ne l'aura pas, puis que c'est qu'on va faire. Ben, on cherche le royaume, on cherche à plaire à Dieu, on cherche à vivre pour Dieu. On cherche à rester en communion avec Dieu, puis Dieu va s'arranger avec le reste. Basé sur ses promesses, quand tu décides de te baser sur ses promesses à Dieu, tu peux confesser et croire à l'exaucement. T'es pas un effronté de croire que Dieu va répondre à ses prières. C'est pas par audace que tu vas commencer à dire, regardez, Dieu va le faire. Non, il veut qu'on pense comme ça. C'est quasiment effronté de dire que ça marchera pas. Quand Dieu a dit qu'il était pour le faire. Donc, on le sait que, comme le dit Isaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Toutes les paroles, les promesses, ça, ils ne retournent pas à Dieu sans avoir fait le dessein de Dieu. C'est du cash et du garanti. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Nous pouvons et devons prier pour obtenir les promesses de Dieu pour notre famille en déclarant que sa volonté soit faite dans la vie de vos enfants. Parce que c'est sa volonté de le faire. Puis il l'a promis de le faire. Puis vous allez voir que les promesses que je vais aller le sortir, il y en a des promesses qui sont dans l'Ancien Testament, puis il y en a qui sont dans le Nouveau Testament. Fait que même les disciples au temps de Jésus ne pouvaient pas dire, Dieu ne l'a jamais dit. Oui, il l'a dit dans l'Ancien. C'était déjà annoncé que Dieu ferait ces choses-là. Là, si vous avez un crayon et un papier, c'est le temps d'écrire les beaux versets qu'on va avoir. Les versets qu'on peut s'appuyer. Dieu l'a promis. Puis là, on s'appuie là-dessus, puis on va voir la main de Dieu, puis commencer à confesser. Je m'inquiète plus, je crois que Dieu va le faire. J'ai pas de plume, je suis pas une boule. Gloire à Dieu. Y a-t-il des promesses de Dieu, des versets à croire, à confesser et à prier pour que nos enfants soient sauvés? On va aller voir Isaïe 44:3. Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais ce verset-là était pour, mettons, le peuple d'Israël. » Oui, mais l'Israël de Dieu, c'est qui? Le véritable Israël de Dieu. C'est nous, les chrétiens. L'Israël, selon la chair, qui sont pas nés de nouveau, ils sont pas le véritable Israël de Dieu. Isaïe 44:3 dit, « Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » C'est qui ça, nos rejetons? nos enfants. Amen, Seigneur. On veut la bénédiction pour nos enfants. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, « Je suis à l'Éternel. » Ah, ça, c'est extraordinaire. Qu'un jour, nos enfants disent, « Je suis à l'Éternel. » Gloire à Dieu. Puis Dieu a dit qu'il va le faire. Puis celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre y criera de sa main, « À l'Éternel. » Et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ça, là, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un moment où le moment qu'un parent chrétien né de nouveau voit ses enfants s'engager à suivre le Seigneur, puis qui sont convaincus, puis qui disent, je suis à l'Éternel. Hallelujah, gloire à Dieu. Un autre beau verset dans Isaïe 59, le verset 20. C'est 20-21. Puis ça, là, c'est une promesse dans l'Ancien, mais pour le Nouveau Testament. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. C'est qui ce Rédempteur-là? C'est Jésus. Donc, cette promesse-là est pour ceux de l'époque de Jésus. Là, Dieu dit, « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, avec ceux qui vont se tourner vers ce Rédempteur-là. » Donc, ça s'adresse aux chrétiens. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Ça, là, Dieu promet que l'Esprit et les paroles de Dieu vont agir dans le cœur de nos enfants, puis qu'ils s'en retireront pas. Commençons à confesser ces choses-là. C'est des promesses. Seigneur, t'as promis dans ta parole que tu ferais cette œuvre dans mes enfants. Je le réclame dans le nom de Jésus. Puis merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Hallelujah. Jérémie 31, 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ça, ça parle de ceux qui ont des enfants égarés dans le monde. Dieu dit, arrête de pleurer, puis ils vont revenir du pays où ils sont égarés, où ils marchent dans le péché, sont esclaves dans le pays. Mais Dieu va les ramener dans leur territoire. C'est dans le territoire de Dieu, dans le territoire de la bénédiction de Dieu, qui est sur nous. Dieu va ramener. Il a dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est qui ça qui font partie de notre avenir? C'est nos enfants. Puis il dit, tes enfants reviendront. Merci Seigneur. Pensez-vous que Dieu le savait pas d'avance, qu'il y aurait des chrétiens, que leurs enfants seraient dans le monde? Il voyait l'histoire avant qu'elle arrive. Pourquoi qu'il nous parle comme ça? Parce qu'il veut qu'on apprenne à y faire confiance, qu'on arrête de se faire des soucis, qu'on arrête de s'inquiéter, qu'on arrête de confesser, puis de tomber sur des fois même ça déprime, si c'est pas de sa dépression, parce qu'on voit que nos enfants, ils s'en vont tout croche, puis on n'a pas de confiance que Dieu pourra agir. On est comme abattu, sans... C'est comme si on serait sans Dieu, on ne croit plus que Dieu pourrait faire de quoi. Pourtant, il l'a promis. On voit que le diable nous cache des choses. Il s'arrange, puis si on l'a déjà entendu, il s'arrange qu'on les oublie. Il essaye de nous faire regarder à nous, qu'on ait des inquiétudes plutôt de regarder au verset. Mais Dieu, lui, veut qu'on regarde au verset. Il nous les montre, ces versets-là. Il veut qu'on mette notre foi dans sa parole. Il veut qu'on espère en lui. Il veut qu'on s'attende à ce qu'il puisse le faire. Puis Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, puis Dieu est vrai, puis sa parole est vraie, parce qu'elle ne retournera pas en haut sans avoir fait son effet. Proverbe 11:21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. La postérité des justes sera sauvée. C'est qui ça, les justes? C'est ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus. La postérité des justes sera sauvée. La postérité des justes sera sauvée. Ça, là, c'est un verset de la parole de Dieu. C'est une promesse de Dieu. On a le droit d'espérer, puis on a le droit d'y croire, puis on a le droit de le confesser, que notre postérité va être sauvée. Nos enfants vont être sauvés. Amen. Psaume 112, 1. Psaume 112, 1 et 2. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. C'est qui ça, les hommes droits? C'est nous. Pas parce qu'on est meilleur. C'est parce qu'on marche dans la justice de Dieu. Nous croyons que Jésus a tout accompli. Nous sommes déclarés justes. Nous sommes des hommes droits. Nous marchons dans sa parole. Nous restons fidèles à sa parole. Nous avons le droit d'espérer que Dieu va bénir notre descendance. Actes 16, 31. Hallelujah! Gloire à Dieu! Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans nos vies. Paul et Silas sont en train d'évangéliser quelqu'un, puis il lui dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia! Gloire à Dieu! C'est Dieu qui le promet, pas nous. Puis on le croit, Seigneur va voir notre famille sauvée. On veut les revoir venir du pays dans ce qu'ils sont égarés. Acte 2, 38. Oh oui, c'est ça que ça dit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Amen. Hallelujah. La promesse, c'est une promesse, cela. C'est une promesse d'être sauvé. Repends-toi, accepte Jésus-Christ. La promesse est pour toi et pour tes enfants. Gloire à Dieu, croyons pour nos enfants. Amen. Gloire à Dieu. Acte 2, 16. Ça achève. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. C'est une promesse encore que Joël avait prophétisé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On veut les voir, nos fils et nos filles, en train de vivre les dons spirituels. Être remplis du Saint-Esprit, prophétiser, parler en langue, imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, ça va être extraordinaire de voir nos fils et nos filles en train de le vivre. Ben ça, c'est nos parents. Mais oui, nos parents, notre père et notre mère, notre grand-père et notre grand-mère, espérons pour tous, les jeunes gens comme les personnes plus âgées. Ça n'a pas de différence pour Dieu. Acte 11, le verset 13. C'est encore des moments d'évangélisation où l'apôtre Pierre a été évangélisé. Une personne pour l'amener au Seigneur. Il dit, cet homme nous raconta, acte 11, 13, cet homme nous raconta comment ce qu'il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Il n'y a pas une promesse. Là, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 promesses. Dieu est-il obligé de réapparaître pour nous en redire une autre promesse?
Non.
Y a-t-il assez?
Oui.
On peut croire?
Oui. Oui.
Tu dois te douter?
Non.
Est-ce qu'on le sait que Dieu va le faire?
Oui.
Est-ce qu'on le sait que Dieu est en train de le faire?
Oui.
Il est déjà en train d'agir.
Oui.
Depuis que vous êtes converti, qu'il est en train d'agir.
Yes, yes.
Mais il agit même avant que vous soyez converti. Puis là, vous êtes embarqué là-dedans. Il est encore en train d'agir parce que les autres aussi vont embarquer. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Puis Dieu veut qu'on s'attache, on espère en lui. Qu'on s'appuie pour attendre sa promesse. C'est ce que j'ai dit au début. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Gardons la foi et confessons, Dieu est en train de le faire. Nous allons voir sa main en train de le faire. Puis on va être dans les louanges, dans des cris de joie, dans des actions de grâce, des remerciements au Seigneur. Et dans l'adoration, à se prosterner devant Dieu et à le remercier de l'avoir fait, ça va être extraordinaire. Le jour où on va voir tous nos enfants assis en train de prophétiser, remplis du Saint-Esprit. Dieu le veut. Dieu l'a promis. Puis il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole, tes promesses qui sont là. On le sait que tes paroles, c'est pas oui et non. C'est oui et amen. Puis nous attendons par la foi l'exaucement de ces prières. Ces promesses-là qui sont là, c'est pour nous. Puis nous les saisissons par la foi. Nous confessons que tu es en train d'agir. Tu es en train de ramener nos enfants dans le pays de la servitude où ils sont égarés. Tu vas les ramener dans ton pays à toi, Seigneur, qui est le chemin de la vie éternelle. Je les remets entre tes mains afin qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit, qu'ils prophétisent, qu'ils aient un cœur à vouloir te suivre et te servir et à confesser qu'ils sont eux-mêmes qui appartiennent à l'Éternel. Oui, Seigneur, je te remercie ce que tu es en train de faire dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.